Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Radio.
Le commentaire de
Félix Séguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres.
Hey Félix, on a tous été touchés par cet accident-là qui a coûté la vie d'une mère et de ses deux enfants. Puis là, on apprend que le bonhomme qui leur a foncé dessus était au volant d'une camionnette et avait des problèmes au cerveau. Puis le gars, il a décidé de conduire quand même.
Ben oui, je sais. Et d'ailleurs, tu vois, on avait commencé à évaluer cette situation-là quand l'accident est arrivé. Puis les témoins de la scène, puis je pense que certains policiers qui ont parlé sous couvert de l'anonymat en disant ce n'est pas la première fois qu'une telle affaire survient dans son cas. Donc, c'est tout dire, hein? Pourquoi quelqu'un ne l'a pas envoyé subir l'examen de la Société de l'assurance automobile du Québec afin de, sans dire lui enlever son permis, peut-être lui imposer des restrictions, etc. Manifestement, il avait sans doute besoin d'être évalué.
Ben, ça nous rappelle ce qui s'est passé à Québec, là, le gars qui a eu une crise d'épilepsie, là, puis qui a foncé sur une femme qui était enceinte. Là, comment ça fait qu'il conduisait? Il était épileptique.
Je crois que c'est cette femme qui avait refusé les transfusions de sang, hein, n'est-ce pas?
Non, ça c'était une autre histoire. Non. Elle, c'était celle qui a refusé les transfusions de sang, elle est morte finalement au bout de son sang. Elle est morte parce qu'elle s'est fait rentrer dedans, mais devant le même hôpital en fait. Là. Et le gars était épileptique. Là. Écoute, on revient sur cette une du journal sur un acte de bravoure de la part de trois pères de famille.
Écoute, moi j'ai lu ce texte-là presque les larmes aux yeux. Ouais. Catherine Lamontagne a bien raconté cette affaire-là. On se rappelle l'explosion à Beauceville où trois pères ont été tués, trois pères de famille. Tu te rappelles, là, ça c'est survenu dans une usine de la Beauce et puis on raconte le récit de tout ça. C'est les actes héroïques qu'ils ont posés. Le jour de ce drame-là, il y a un incendie qui se déclare à l'usine Bois Ouvré, où ils travaillent, ces hommes-là, à Beauceville. Et ce que raconte ma collègue, c'est que Jean Lachance, Martin Roy, Mario Morin, le trio là est dans la cinquantaine, ont tous perdu la vie en tentant de sauver leurs proches. Ils ont tout fait jusqu'à la fin avant qu'une explosion survienne et vienne justement leur prendre la vie. Ils étaient chacun papa d'un fils unique. Et là, les témoignages que Catherine relate dans son article, ma foi, sont très confrontants, sont très émotifs. Ils se sont précipités, ces papas-là, sur les flammes, tous des papas de fils uniques d'ailleurs. Ils se sont précipités à l'intérieur, raconte Catherine, pour éteindre le brasier. Ils ont tenté de porter secours à tout le monde. Après ça, il semble que les blessés aient été allongés au sol. Il y a eu l'incendie, puis ensuite il y a eu l'explosion, puis les blessés étaient allongés au sol. Et il y a une dame qui s'est approchée d'une des victimes, Jean Lachance, pour lui donner de l'eau. Et là, il a prononcé cette dernière parole en disant « Est-ce que tous les autres sont corrects? » Ça, c'est le fils du gars qui rapporte ça. Là.
C'est incroyable. À chaque fois qu'on lit des histoires comme ça, moi, ça me ramène des actes de bravoure comme ça, de penser aux autres. Tu te dis tout le temps « Est-ce que moi, j'aurais fait la même chose? Est-ce que moi, j'aurais été capable de faire ça? » Et souvent, des gens qui survivent, là, qui ont fait des actes de bravoure, qui ont sauvé des gens, disent « Ben, je savais pas que j'avais ça en moi. J'avais aucune idée que j'étais courageux, mais devant cette crise-là, soudainement, j'ai trouvé ce courage-là.
Ben, en tout cas, moi, ça suscite chez moi la même réflexion, puis j'espère la même chose aussi pour en avoir interviewé, puis des policiers aussi. Peut-être des policiers, on s'entend, il y a comme une prédisposition, hein, on dirait, par le service public qu'ils rendent, de protéger et servir justement. Il y a comme une prédisposition à agir en héros. Mais tu sais, dans la population générale, là, on s'estime pas prédisposé à entrer dans un incendie, puis à en sortir des gens, puis à mettre la vie des autres avant sa propre vie. Alors, félicitations à ces trois hommes-là et puis sympathie à ces faux fils qui restent aussi.
Un texte extrêmement émouvant et ça fait du bien de lire ça parce que on vit dans une époque où on le voit régulièrement, là, où les gens ne pensent qu'à eux et pensent pas aux autres. Hein. Tu sais de quoi je parle.
Et là,
soudainement, de voir des gens justement qui ont pensé aux autres avant de penser à eux et qui ont mis leur vie en péril et qu'ils l'ont même perdu. Je trouve ça un texte très touchant, très émouvant de la part de Catherine Lamontagne.
Ouais.
Et écoute, le bureau d'enquête que fait un texte sur les 10 entreprises qui bafouent le plus notre langue.
Intéressant, hein, le texte d'Olivier Fauché,
oui.
Parce que bon, on a pris la mesure de certaines entreprises qui sont installées au Québec, puis de comment ils tentent de protéger la langue française. Dans leur cas, il ne s'agit pas de la protéger manifestement, mais plutôt juste d'appliquer les lois qui sont là. Et ça n'est pas fait dans tous les cas. Je te fais un bilan là assez rapide, un bilan impardonnable, dit le président d'Impératif français, Jean-Paul Perrault, hein, qui est là depuis longtemps, on voit les publicités à la télé. On commence à descendre la liste, OK? Des entreprises qui n'ont pas respecté les règles, je te le fais rapido, Tim Hortons, ils ont 64 plaintes. Et là, c'est intéressant quand on va ventiler ça, là, les plaintes concernent des établissements, peut concerner aussi les produits qui sont vendus, qui sont mal étiquetés, puis peut aussi concerner la langue de service.
Mais c'est ça, c'est pas seulement les affiches, les affichages, c'est aussi dans quelle langue on te sert.
C'est ça. Tim Hortons, 83% des gens qui se sont plaints de la langue de service. On les servait pas dans la langue qu'ils désiraient, voire le français. Walmart, 46% visent la langue de service, 23% des plaintes visent les produits. Dollarama, ça, je me dis, je suis un peu moins surpris que 49% visent l'affichage de certains produits. Là, tu sais, 46% la langue de service. Pizza, 100% des plaintes visent la langue de service. IGA, ça m'a surpris un peu, 62% la langue de service concerne 13 établissements. Le Free Kentucky, la PFK, 92% des plaintes visent la langue de service dans 8 établissements, 59% chez Metro, 38% chez Canadian Tire.
What do you want, young lad? Mais ce qui me fait coller au plafond, c'est qu'une amende n'est donnée que dans moins de 1% des cas. Donc, à quoi ça sert d'avoir un office de protection de la langue française si on ne donne pas d'amende aux contrevenants?
Ben, tout ça est résumé par l'expression, tu sais, est-ce qu'on va vraiment à la guerre avec des tire-poids? Dans le cas de l'Office de protection de la langue française, on peut pas se réjouir du fait qu'on n'est pas capable de sanctionner adéquatement ces entreprises-là, parce que tu sais, je veux dire, c'est pas coercitif au fond.
Mais non, à un moment donné, là, si c'est pas coercitif, ben tu sais, ils vont continuer. Là. À un moment donné, ils vont changer quand ils vont devoir avoir une amende. Et écoute, en terminant, t'as vu la propriétaire du CHSLD, Erin? Parce que là, c'est des audiences publiques pour savoir ce qui s'est passé. Et la propriétaire du CHSLD dit, est-ce que je pense qu'on aurait pu en faire plus? Je le sais pas. Mais moi, je pense que sais qu'il aurait pu en faire plus. Je pense que je le sais. Non, mais quand même, c'est incroyable. Je le sais pas si on aurait pu faire plus que ce qu'on a fait là. Ah oui, parce que vous avez fait le maximum, là. En fait, on aurait pu tuer plus de monde encore? Je le sais pas.
Oui, c'est ça. Je sais pas. Peut-être, hein?
Peut-être.
Ou peut-être pas. Hey, ça vient de sortir. Il y a des nouvelles accusations contre deux ex-cadres de SNC-Lavalin. La GRC a arrêté, tu sais, dans le dossier de la Société des ponts fédéraux, là, Pont-Champlain, Pont-Jacques-Cartier, la GRC vient d'arrêter deux anciens cadres de SNC-Lavalin. Puis le DPCP vient d'annoncer on va porter des accusations. C'est assez intéressant, là. On va en parler beaucoup aujourd'hui, là, la GRC enquête là-dessus, je pense, depuis 10 ans. Alors, elle enquêtait sur Michel Fournier, qui a reconnu avoir reçu 2,35 millions de dollars en pot de vin d'SNC-Lavalin pour truquer l'appel d'offres dans le contrat de réfection du pont Jacques-Cartier au début des années 2000, Richard. Alors là, il semble que la justice s'abat sur ces gens-là. Je te le dis, on va en parler.
Ça veut dire que les ponts qui devaient coûter X ont coûté beaucoup plus cher parce que, tu sais, les enveloppes en dessous de la table, ben, c'est finalement les contribuables qui payent pour ça.
Oui, c'est bien sûr. Ça fait des prix, c'est des prix gonflés. Ça a été exemplifié à de nombreuses reprises à la commission Charbonneau. Les lampadaires, l'éclairage de rue, même chose. Les trottoirs, même chose. Il y a une prime que nous, on payait, que l'on ne savait pas que l'on payait en raison de la collusion des acteurs.
Ouais. Ben, écoute, ils sont pas sortis du bois. SNC-Lavalin. Merci beaucoup, Félix. On se reparle demain. Bonne journée.
Au revoir. Bye.